Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec Benjamin Hamar, Juliette Briens et Jérôme Lavrieux. On est avec vous également grâce au 3216, c'est votre numéro. Et grâce à l'application RMC, continuez de nous envoyer des messages et de réagir à notre prochain débat. On parlera des États-Unis. On adopte de plus en plus d'habitudes US en ce qui concerne nos modes de vie, la nourriture, les voitures. Est-ce qu'on est en train de devenir des ricains? On attend en tout cas vos commentaires. Il y aura le rendez-vous des notaires à 14h30 et puis on terminera avec les immanquables. Rémi, 14h50.
On parlera notamment de notre ministre de l'Intérieur qui a été, Gérald Darmanin, empoigné assez vivement hier en Guadeloupe par un individu.
Ouais.
Et puis on parlera également et puis de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement,
oui,
qui est de plus en plus seul. Tout le monde s'en va dans son cabinet.
Et ce sera 14h35. Hein.
Exactement.
RMC Estelle Midi.
Cette musique. Eh bien, parce que nous allons aller faire un petit tour du côté des États-Unis avec le constat du jour. Et ce constat, c'est celui de l'essayiste Jérôme Fourquet, qui sera avec nous d'ailleurs dans un instant. Pour lui, la société française est en train de s'américaniser, notamment en ce qui concerne la nourriture, mais pas que. Fast-food, taille des voitures, musique, langage, on se rapproche, Rémi, de plus en plus de l'Amérique.
Oui, et les Français en sont conscients, hein, c'est ce que nous dit un récent sondage publié par l'Institut YouGov. Selon lui, 78% des personnes interrogées constatent régulièrement une influence américaine dans notre société et dans toute l'Europe. Ce sont même les Français qui sont les plus nombreux à juger que cette influence est trop importante. C'est d'abord le cas dans les films et les séries, à la télé et dans la musique. Pour plus de 8 Français sur 10, trop d'américanisation. Ils sont quasiment autant à le constater dans les marques ou dans la présentation des produits dans les rayons, notamment de nos supermarchés. Moins prégnante, la culture anglo-saxonne influence également notre langue et notre façon de parler.
Ah bah
pour 53% des sondés. Et peut-être plus surprenant, en tout cas moi ça m'a surpris, alors que la France est le deuxième marché mondial du géant McDonald's, seuls 29% des Français pensent que l'Amérique influence notre façon de manger.
Ah, je pense que c'est un peu plus. Mais enfin, sommes-nous devenus des ricains? Bah oui, tout simplement. Est-ce que voilà, on est les suiveurs de l'Amérique? Je commence avec vous, Juliette, qui avez vécu justement aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Alors moi, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde de mondialisation. Donc évidemment, on s'inspire. Enfin, il y a des flux, il y a des passerelles maintenant entre les pays et entre les différentes cultures qui se font beaucoup plus facilement. C'est vrai que pendant des années, on a suivi cette culture dominante qui était la culture américaine, parce que justement c'était la culture dominante sur, à Hollywood, sur le mode de vie, sur la nourriture, sur beaucoup de choses. Et on a vu apparaître effectivement les fast-food, mais quelques autres choses très intéressantes, comme par exemple on s'est retrouvé avec un Hard Rock Café en plein milieu de Paris,
oui,
ce qui paraît ridicule, parce que qui a envie d'aller au Hard Rock Café à Paris?
Oui. Voilà, Disneyland aussi. Hein.
Voilà, Disneyland et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on peut voir beaucoup d'autres courants de culture qui arrivent en France. On ne fait pas que s'américaniser. Vous n'avez qu'à sortir dans la rue pour voir le nombre de bubble teas, de sushis, de je ne sais quoi, barbecue coréen et autres joyeusetés.
Enfin, il y a moins de barbecue coréen.
Il y en a énormément. Alors là, vraiment, Estelle, je pense qu'il y a encore plus de nourriture asiatique à Paris que de nourriture américaine. J'aimerais compter.
Un exemple qui est beaucoup plus répandu à travers toute la France, c'est les kebabs, par
exemple. Oui, bien sûr.
Et il y a encore et donc encore d'autres influences, les kebabs, les tacos, etc. Donc en fait, c'est un monde évidemment de mondialisation. Donc on s'inspire, on prend, que ce soit bien ou pas. Moi je trouve ça un peu triste.
On écoute moins de musique coréenne que de musique américaine.
Alors voilà, il y a effectivement il y a des industries. Mais par exemple, c'est faux de dire ça, parce que nos jeunes sont des passionnés de K-pop.
Ouais.
C'est que nous, non, c'est vrai, nous, on ne sait pas de notre génération, mais la K-pop explose en Occident. C'est incroyable. Et la culture, la façon de s'habiller, la culture japonaise, les mangas, il y a beaucoup de choses qui s'exportent. Et il n'y a pas que l'Amérique, c'est juste qu'on a commencé par l'Amérique, qui était la culture la plus dominante, celle qui nous ressemblait le plus. Et c'est celle qui est arrivée en premier. Mais je pense que tout simplement. Mais moi, je trouve ça triste. Si je dois le dire, je le déplore, puisque j'aimerais qu'il y ait plus de. de frontières culturelles entre les pays pour qu'on puisse en fait aimer, voyager et partir à la découverte de la culture des autres et qu'on n'ait pas accès à toutes les cultures juste devant chez nous. Je trouve ça un peu triste. Voilà.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut lutter quand même contre cette américanisation, même si Juliette dit qu'elle n'est pas là?
Je pense qu'il ne faut pas du tout lutter.
Ah bon, d'accord.
Moi, ça ne me choque pas du tout. Déjà,
laissons-nous envahir.
Mais pourquoi envahir? Les Américains ne nous ont pas envahis, ils nous ont juste libérés.
Petite différence
sémantique.
Mais il ne t'a pas échappé qu'aujourd'hui, on parle anglais. Voilà, tout le monde, il y a des trucs en anglais de partout. Made in France, on aurait pu dire fabriqué en France.
La langue des Philippines, c'est l'anglais. En Corée, on parle de moins en moins coréen et tout le monde parle anglais. Quand on parle anglais, comme en Corée, on arrive à se débrouiller.
Si vous en félicitez, c'est formidable.
Non, mais moi, je relève l'ambiguïté sur ce que nous a dit Rémi. 80% des Français déplorent l'américanisation. Vous savez, les feuilletons américains.
Mais regarde que ça.
Il suffirait, si on en est compte, il suffit de pas les regarder pour qu'on nous en propose plus. Comme disait Coluche, il suffit de pas l'acheter pour qu'on nous en vende plus. Hein. Donc c'est parce que les gens aiment ça aussi. Je note qu'on est américanisé par les séries et les films américains. On est un des rares pays dans le monde où on ne supporte pas d'aller voir en version originale. Il faut que ce soit doublé. Vous allez dans tous les films américains, en Hollande, au Danemark, en Allemagne, ailleurs, en Italie, pays de cinéma, ils sont tous en VO. Ouais. Donc on n'est pas si américanisé que ça. On aime bien les histoires. Et puis souvent, les Américains reprennent nos histoires pour les faire à leur sauce aussi. La chorale, etc. Ouais. On l'a déjà vu. C'est normal. Puis je voudrais juste rappeler une chose, c'est que les États-Unis d'Amérique, tels qu'on les connaît, c'est une création des Européens. C'est des Européens qui ont émigré dans ce pays, qui ont amené leurs valeurs, leur manière de faire. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Je me sens pas américain, je me sens d'origine canadienne, c'est à peu près la même chose, mais de manière plus soft.
Mais c'est vos origines.
Et je suis pas américanisé par la bouffe, c'est pas parce que je vais au McDo régulièrement que j'aime pas manger du foie gras. Si vous dites dans un restaurant en Californie que vous voulez manger du foie gras, le mec il tombe dans les pommes. Donc on a encore des différences culturelles majeures.
Mais encore heureux.
Et bah ouais. Mais on n'est pas non plus caché. Mais on n'est pas caché derrière un mur derrière des barbelés pour nous protéger d'envahisseurs.
Je suis d'accord, par contre, avec Jérôme là-dessus. C'est pas vrai de dire qu'il y a de l'influence de la culture américaine sur certaines industries qui viennent chez nous. C'est pas pourtant qu'on reste profondément français. Et là, je peux vous dire que moi qui ai vécu aux États-Unis, j'ai vu une énorme différence. Et le choc culturel pour moi a été énorme sur beaucoup d'autres aspects. Il ne faut pas s'arrêter.
Tu l'aurais beaucoup moins aujourd'hui.
Pas du tout. Mais parce que je ne parle pas de McDo, etc. Il ne faut pas s'arrêter sur les clichés. On est français pour plein de raisons. Parce qu'on est latin pour notre façon de voir la vie, de la façon le mode de vie qu'on a à la française. Ce n'est pas du tout la même chose.
Notre façon de parler anglais, d'ailleurs.
Notre façon de se comporter au travail, notre façon de se comporter sur plein de sujets. On est extrêmement différents.
À votre avis, Benjamin Mamar, elle nous vient d'où cette fascination pour l'Amérique, parce que évidemment elle n'est pas nouvelle.
Alors d'abord, il l'a dit sous un ton de boutade, mais Jérôme, en fait, l'origine, c'est bien ça. L'américanisation en France, elle date pas de 2024, elle date de 1945. Et ensuite, coup d'accélérateur en 1947 avec le plan Marshall. Voilà. Et donc, il y a des générations de Français qui ont été fascinés par l'American Way of Life, avec les chewing-gums, le coca, etc. Ça a d'ailleurs été dans les années 60, quand le Parti communiste français était vraiment une force politique solide et largement enracinée, le fruit de débats houleux, extrêmement vifs, dans les années 50, 60, etc. Et donc aujourd'hui, c'est enfoncé une porte ouverte. Bien évidemment qu'il y a une américanisation, mais elle est liée à une certaine forme de schizophrénie, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a un anti-américanisme assez large dans de larges pans de la société, et en même temps, il y a une américanisation. Il suffit d'aller à Euro Disney, à Marne-la-Vallée, pour voir qu'on est dans ce discours, des fois, d'hostilité. Il est schizophrénique.
Mais tu peux aller au parc Astérix à côté aussi. Hein.
Oui, mais bien sûr. Mais enfin, moi, tout ceci me semble au total assez futile, parce que derrière, le patrimoine culturel français, il est solide et enraciné, et il a toujours digéré ces choses-là. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que disait tout à l'heure Juliette, quand elle pointait d'autres soft power. Le soft power japonais et coréen, chez les jeunes, il est extrêmement puissant. Ils sont fascinés par des tas de trucs qui viennent du Japon et de Corée. Et à Paris, qui est quand même, c'est pas n'importe quoi en termes de bassin de consommation, effectivement, il y a énormément de restaurants asiatiques et il y a des gens qui sont fans de wok et de comment dire...
Oui, mais parce que t'es aussi sur un truc un peu manger plus sain, etc.
N'importe, c'est donc du soft power qui nous traverse. Et dans un monde de mondialisation, se plaindre comme ça, c'est vouloir vouloir vider l'Occident, vider l'océan avec une cuillère à bois. C'est-à-dire qu'on est dans un monde mondialisé, il y a des soft power.
Et le nôtre aussi, que nous,
mais
on
la France,
exporte.
Elle a aussi derrière un patrimoine gastronomique.
Enfin, un peu moins.
On peut, mais il faut se dépendre.
Mais regardez, par exemple, à un moment, quand il y avait Beverly Hills, il y a eu toute cette vague de prénoms. Brandon, Dylan, etc. Excusez-moi, est-ce que vous avez Marguerite, Léon,
qui s'exporte aux États-Unis? Mais les prénoms français, dans les prénoms français, il y a eu aussi des vagues comme ça. Mais on sait qu'on a vu un retour de vieux prénoms français qui datent des fois des années 20.
Pas aux États-Unis.
Non, mais en France.
Mais d'accord, mais là, je te parle. En France, tu exportes des prénoms américains.
Mais
en revanche, on va pas. Mais nous,
tu vas quand même pas découvrir aujourd'hui que la France et les États-Unis jouent pas dans la même catégorie en termes de soft power. La question qui est importante, c'est de savoir, est-ce qu'en France, on a sur les prénoms une américanisation majoritaire?
Bah oui, oui, oui. Bah non, mais c'est pas majoritaire, prénoms, mais elle existe.
Aux États-Unis, il y a des prénoms français qui reviennent, qui étaient des prénoms très obsolètes et qui reviennent aujourd'hui. Donc ce débat fait
brise. Aux États-Unis, personne s'appelle Julie pour Julie.
On n'est pas américanisé pour autant, c'est pas vrai.
Mais quand même,
aux États-Unis, c'est de l'américanisation, je suis désolée.
Quand t'as une chaîne, excusez-moi, les donuts. On est quand même le pays de la pâtisserie, pardon. On est le pays qui fait la meilleure pâtisserie. Mmh. Les donuts, c'est pas notre culture. Les donuts, c'est une culture américaine. C'est les Simpsons, c'est tout ce que tu veux, c'est les séries américaines.
Et maintenant, à Los Angeles, il y a des croissants. Maintenant, à Los Angeles, il y a des croissants. Aux États-Unis, tout ce qui est français est à la mode. Aux États-Unis, tout ce qui est à la française est considéré comme huppé. Ils donnent des prénoms français à leurs gamins.
La viennoiserie s'exprime très bien, s'exporte très bien.
Je vous donne un exemple. Il y avait un rasoir Gillette. En France, il s'appelait le rasoir Gillette Sun. Et aux États-Unis, il s'appelle le rasoir Gillette Soleil.
Voilà.
Voilà. En fait, tout est comme ça. Aux États-Unis, il y a de la baguette, il y a des croissanteries qui s'ouvrent, ils donnent des prénoms français à leurs gamins. À chaque fois qu'ils utilisent un mot français, c'est pour élégantiser leur discours.
Ils sont aussi fascinés que
nous. On est fascinés d'eux.
Le cinéma français, il a toujours défendu cette exception culturelle. Donc on a ces débats depuis des décennies. Et franchement, je pense qu'ils ne correspondent pas à une réalité. L'identité culturelle française, elle est là. Elle est solidement enracinée.
Totalement.
Alors, on est avec notre invité et ça tombait parce que c'est sur lui qu'on s'appuie pour ce sujet. Je suis ravie vraiment de l'avoir. C'est Jérôme Fourquet qui est directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et qui est essayiste et analyste. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Et quel plaisir de vous avoir dans Estelle Midi.
Merci pour votre invitation.
Mais grâce à vous, justement, on se pose cette question. Est-ce qu'on est devenu des ricains? On a lu votre interview ce matin dans le Figaro, dans lequel vous parlez d'américanisation de la société.
Alors, on est encore français, mais comme je le dis, il y a une couche culturelle yankee qui s'est déposée depuis longtemps maintenant. Ça commence dans les années 50, mais qui s'est très fortement sédimentée sur à la fois nos paysages, nos goûts alimentaires, nos pratiques culturelles, nos modes de vie. Alors, ce n'est pas forcément grave, et on ne va pas être dans le pour ou contre, c'est juste un constat qu'on fait, et on n'a pas forcément conscience de l'ampleur et de la profondeur de cette influence sur la société française.
Mais sur les paysages, par exemple, comment elle se traduit, cette influence?
C'est par exemple le développement de toutes ces zones commerciales de périphérie. C'est hérité de, ou c'est décalqué des États-Unis, par exemple. Une forme d'urbanisme commercial aussi dans les centres-villes. Tout ça porte la marque de cette américanisation.
Et est-ce qu'on peut lutter contre ça, ou est-ce que justement cette américanisation, elle est inexorable?
Elle est très puissante. J'entendais vos débats à l'instant. On parle de l'exception culturelle française. Donc c'est vrai que on a un cinéma français qui se porte plutôt bien. Et par rapport à d'autres pays européens, on a une production nationale qui est encore importante. Mais je suis allé regarder sur plus de 60 ans la part de films américains dans les films qui font plus d'un million d'entrées chaque année en France.
Ouais.
Et donc c'est majoritaire pour les films américains depuis le milieu des années 80.
D'accord.
Et donc on a des générations entières qui ont été biberonnées à cela. Alors, petit clin d'œil avec l'actualité immédiate, vous voyez que la tête de liste du parti qui se revendique comme étant le plus patriote, il s'appelle Jordan. Donc c'est une illustration de cette américanisation, parfois même inconsciente, du pays.
Mais c'est ça, on parlait des prénoms, effectivement, des prénoms américains qui se sont exportés dans les années 80-90. Est-ce qu'il faut lutter contre ça, ou est-ce que c'est déjà trop tard?
Alors, encore une fois, c'est à chacun de juger. Moi, je pointe juste un constat.
Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait?
Rappeler tout ça, défendre un certain nombre de notions qui nous semblent importantes. Vous voyez ici, l'article auquel vous faites référence a comme clé d'entrée l'alimentation.
Oui.
Et donc si on se compare avec un pays voisin qui dispose lui aussi d'une très grande tradition gastronomique, l'Italie, en Italie, on a, alors ils exportent la pizza bien sûr, mais ils ont su conserver un attachement beaucoup plus, j'allais dire charnel, avec la cuisine italienne. Chez eux, on ne parle pas de gastronomie ou de haute cuisine, on parle de cuisine. Et donc je pense que c'est aussi un travers français, c'est-à-dire que ce qui s'exporte du modèle français, c'est souvent le luxe, c'est souvent le premium, et donc on sait, si vous voulez, polariser là-dessus, alors que sur le quotidien, le commun, eh bien, énormément de choses ont été laissées un peu en friche et en jachère. Et donc on a aujourd'hui un modèle américain qui s'est coulé dans nos habitudes. Alors, on a mis un pistolet sur la tempe de personne. Hein. Les gens sont très contents d'aller chez McDo, de donner des prénoms américains à leurs enfants. Et autre ironie de l'histoire, vous voyez que dans l'archipel français, l'île qui devrait sur le papier être la plus anti-américaine, l'extrême gauche française, tout son logiciel et tout son référentiel idéologique, aujourd'hui est directement importé des campus américains. C'est le wokisme, c'est la cancel culture, c'est le Black Lives Matter. Tout leur logiciel, aujourd'hui, est américanisé.
Jérôme Fourquet, est-ce qu'il faudrait, par exemple, interdire, par exemple, comme voulait le faire l'Italie, l'utilisation de l'anglais dans les administrations, vous voyez, essayer de bannir, en fait, tous ces termes anglais qui sont dans notre quotidien. Je pense au Black Friday, au Made in France, au French Days. Maintenant, vous avez les jours français, on appelle ça des French Days. Est-ce que tout ça, il faut essayer de bannir tout ça?
Alors, sans même se prendre exemple sur les Italiens, on peut regarder ce que font nos amis québécois, qui sont une partie du continent francophone, si on peut l'appeler comme ça, qui sont en première ligne face à l'américanisation. Et vous voyez que là-bas, ça nous fait souvent sourire, chez nous, les habitants de la vieille province, on a des mots francisés en lieu et place d'appellations anglaises qu'on utiliserait chez nous. Donc c'est peut-être sur cette bataille culturelle et la... Dans un univers mondialisé, le fait de défendre la francophonie, a fortiori dans l'Hexagone, peut être une bonne chose.
Merci Jérôme Fourquet, en tout cas, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné tous ces arguments. Et effectivement, on se rend compte, quand on vous entend parler, que l'américanisation est quand même en marche dans notre pays. Vous avez des messages également sur l'appli RMC Rémi.
J'ai ce message de Julien qui nous dit bonjour à vous tous, je vous écoute.
Julien, je crois que c'est.
Julien. IEN. Bonjour à vous tous, alors je vous écoute. Et du coup, j'ai une question aux États-Unis. S'ils font des pâtisseries françaises, comme le dit Juliette, ils appellent ça comment? Un pain au chocolat ou une chocolatine?
Oh. Ah. Au chocolat.
Ouais, une chocolatine.
Ça dépend si c'est le nord ou le sud des États-Unis.
On a en ligne Nicolas qui nous appelle de Monteux et qui est paysagiste. Bonjour Nicolas.
Bonjour l'équipe.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous vous sentez américain, Nicolas, quelque part?
Sur certaines choses, oui. Vous voyez, hier soir, j'ai emmené les filles à McDo. Une fois n'est pas coutume, dirons-nous. Maintenant, c'est vrai que tout de suite, j'ai pensé qu'il y a, non, il y a des choses où on ne l'est absolument pas. L'habitat et les véhicules.
Les véhicules, si. On a nos véhicules qui grossissent de plus en plus et c'est vraiment un héritage des États-Unis.
Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de Twingo et de Peugeot 308
Bien sûr.
De Mustang, d'énormes Chevrolet ou de F-150, qui est le véhicule le plus vendu en Amérique.
Vous avez raison.
Qui fait 6 mètres de long.
Et vous avez raison, mais les routes sont plus grandes, mais on assiste aussi quand même à un élargissement et un allongement de la taille de nos véhicules. Effectivement, avant, on roulait plus en Twingo et en Clio, mais c'est fini ça.
Mais depuis toujours, la première Golf, elle faisait la taille de la Twingo. Aujourd'hui, la Golf fait la taille de la voiture à papy autrefois qui était la berline.
Mais ça, c'est une américanisation. C'est les Américains, les grosses voitures, à la base.
Je sais pas si c'est une américanisation ou dans ce cas-là, au Japon aussi, hein, les voitures grossissent.
Oui, certes, mais au départ, le Japon, c'est les petites citadines. Vous voyez, après, on va pas faire un débat sur le Japon.
La DS du général de Gaulle, c'était pas une petite voiture.
Et le Japon, c'est un des pays les plus influencés par la culture américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Je m'étonne.
Et l'autre point, c'était l'habitation aussi. Je sais pas quelle est la surface moyenne en France d'une habitation, mais je suis sûr qu'on va aussi le double.
Parce qu'ils ont aussi. Alors après, ça dépend, parce que si vous allez à New York, les habitations, c'est comme à Paris, elles sont plutôt petites. Mais et si vous allez dans des villes plutôt reculées aux États-Unis, les habitations sont plus grandes, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace. Donc c'est ça aussi. Et quand vous avez plus d'espace et moins de concentration de population, il est
c'est
plus
pas
facile
la même
de construire des habitations.
Mais même McDonald's a dû se franciser pour s'implanter en France. McDonald's s'est francisé, ils ont changé de logo, ils l'ont mis en vert, ils ont réduit les quantités à McDonald's France ne sont pas du tout les mêmes qu'aux États-Unis. Donc il y a quand même eu, même en important la culture américaine, on la francise pour qu'elle s'adapte à notre culture.
Et il y a eu le McBaguette. Je suis pas sûre que le McBaguette
existait aux États-Unis. Il y a des macarons dans nos McDo, madame.
C'était quand même pas génial le McBaguette.
Non, je pense pas.
Et l'américanisation, c'est pas juste un phénomène urbain, c'est aussi beaucoup en milieu rural. Une des activités culturelles et sportives à la fois les plus pratiquées, c'est les clubs de dance country. Il y en a des dizaines de milliers partout.
Non, c'est une niche.
Non.
Non, mais arrêtez.
Interrogez Jérôme Fourquet, je suis sûr qu'il est au courant sur le sujet. Les clubs de dance country, il y en a dans de nombreux villages en France. Vu que Paris, on ne s'en occupe pas, bien entendu. Parce que les Parisiens, vous vous intéressez juste à vous-même. Mais en province, il y a des dizaines de milliers de clubs de country. Dance country, je vous assure.
Mais enfin, ce n'est pas une tendance.
Ça fait longtemps que tu n'es pas allé en province.
Ça fait longtemps. C'est le truc après le périph.
Tu vas en discothèque le samedi soir, tout le monde en sait.
Mais amenez-la dans un club de country, ça va lui plaire, vous allez voir.
Alors, je redonne la parole à Jérôme Fourquet, qui j'ai l'impression qu'il est mort de rire derrière son téléphone.
On avait travaillé justement sur la country, et c'est vrai que c'est une pratique qui est assez répandue dans la
Merci, Jérôme.
De province. On s'était lancé dans un sondage où on avait 8 à 10% de la population qui avait déjà pratiqué la country. Vous voyez, c'est pas majoritaire, mais c'est une partie de la population. Mais regardez, il y a plein d'autres pratiques qui sont importées des États-Unis, alors qui, bien évidemment, prennent une tournure différente quand elles arrivent chez nous. Mais regardons la pratique du tatouage, par exemple. On a 20% de la population qui est tatouée. Ça vient des États-Unis. Et si je reviens sur le plan politique, vous voyez qu'on, sur une élection présidentielle en France, contrairement aux États-Unis, on a deux tours. Comme ça suffisait pas, présidentielle.
Bien sûr.
Et comme ça suffisait pas, on a importé les primaires.
Ouais.
Et les primaires ont du sens une élection américaine parce que c'est une élection à un tour.
Et du coup, on fait quatre tours.
Ben nous, on fait quatre tours maintenant. Donc voilà. Ouais. Donc c'est comme le McDo, on a francisé la recette sous Nicolas Sarkozy qui courait volontiers son footing avec ses Ray-Ban et son t-shirt NYPD.
New York Police.
New York Police Department. On a rebaptisé l'UMP les Républicains. Et les Républicains, la référence, elle est claire, c'est les Républicains américains.
Ça n'a pas fait gagner. Hein.
Alors, je ne dis pas que ce soit dans cette. Mais après, on peut se peindre les cheveux comme Trump aussi. Mais donc, ça, vous voyez, plein de petits signes qui nous montrent que de manière parfois inconsciente, l'imaginaire et le référentiel qui est partagé par beaucoup d'entre nous est un référentiel américain. Et ce qui est très fort dans le modèle américain, c'est qu'il a su proposer des référentiels adaptés à chaque groupe de la population. C'est-à-dire que, je caricature et je vais très vite, on va avoir le Buffalo Grill et la dance country, on va avoir le rap pour les banlieues, on va avoir le Starbucks Coffee et la Startup Nation pour les citadins, etc., etc. Et même, je vous disais tout à l'heure, pour la composante la plus à gauche du paysage, on a aujourd'hui le wokisme, la cancel culture, etc. Donc le modèle américain a de multiples facettes dans lesquelles chacun peut se plonger, se retrouver.
Et c'est fou ce que vous dites, parce qu'au départ, on est un peu parti aller sur le McDo et tout, et en fait, on se rend compte qu'effectivement, l'américanisation elle touche
profonde.
Toutes les couches de la société. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Fourquet. C'était extrêmement intéressant et ça faisait très, très plaisir de vous avoir. On va terminer, Rémi, avec des messages et le résultat de notre consultation sur Twitter.
Allez, j'ai ce message de JB. Moi, je suis fan de cinéma. Effectivement, il y a beaucoup de grosses productions américaines, mais heureusement, en France, on a su préserver notre être exception, et je pense que c'est pas comme ça dans un certain nombre de domaines.
Oui, enfin, t'as aussi plein de gens qui disent « Ah, moi, je déteste le cinéma français ». Donc voilà, t'as aussi ce snobisme-là d'être anti-français.
Il y a plein de navets français aussi. Hein.
Oui, il y a aussi des navets américains, pardon.
Ils viennent pas juste chez nous.
Le résultat de notre sondage, Rémi.
Ah, c'est partagé. On vous a posé la question, un mode de vie, 4x4, vêtements, sommes-nous devenus des ricains ? C'est le nom qui l'emporte, mais pour 55% de ceux qui sont prononcés,
c'est pas une très forte majorité. Dans un instant, le rendez-vous des notaires, comme chaque vendredi. Et on va parler d'entreprise. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand on veut monter une entreprise avec quelqu'un de sa famille ? Eh bien, c'est pas si facile que ça. On en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, nous sommes vendredi et le vendredi c'est le rendez-vous des notaires, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
les notaires vous répondent.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Maître Pierre Lemay, il est notaire à Pont-l'Évêque et rédacteur en chef du magazine Le Conseil des Notaires. Bonjour Maître.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à une question de Mehdi. Mehdi, il a 24 ans et voici ce qu'il nous écrit sur l'adresse notairepourvous@rmc.fr. Bonjour, mon cousin et moi, nous avons fait nos études ensemble et nous voulons monter notre société. Je vais investir davantage d'argent dans cette entreprise car j'ai hérité récemment et que je suis sûre que notre activité va bien fonctionner. Est-ce que le notaire peut nous conseiller sur un statut particulier à choisir ? Comment on fait, Maître, quand on veut monter une société avec quelqu'un de sa famille et qu'on ne veut pas mettre la même somme d'argent ?
Eh bien, on a la liberté et le libre choix de sa décision. Alors, ça peut être une répartition inégale du capital, c'est-à-dire que j'aurai un pourcentage plus important que mon cousin qui apporte moins, ou ça peut être une répartition égale, mais la société me remboursera d'abord l'apport que j'ai pu faire si finalement, à la sortie, je voulais être à égalité avec mon cousin.
Est-ce qu'il y a des risques quand même à monter une société avec quelqu'un de sa famille ?
Ben, pas plus qu'en dehors de sa famille. Simplement, il y a des choses quand même à prévoir. Déjà, dans son propre couple, si Mehdi n'est pas encore marié, la question pourra se poser quand il aura son conjoint. Comme son cousin d'ailleurs, il y a aussi une autre question qui doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de décès ? Est-ce que les héritiers de l'un vont devenir obligatoirement associés ou bien est-ce que l'associé qui resterait devrait donner son accord pour que les héritiers deviennent eux-mêmes associés ?
Quand on veut monter une entreprise, est-ce que le mieux c'est de faire 50-50 ou est-ce que c'est pas gênant quand quelqu'un apporte plus d'argent que l'autre ?
Alors, la notion d'égalité, elle est relative. Après, tout dépend des pouvoirs que l'on va se donner ou que l'on va avoir. Quel va être le gérant ? Est-ce qu'il y en a un qui sera chef de file ? Bon, le mieux quand même, c'est d'arriver à être à égalité. Mais si au départ, on souhaite l'un met beaucoup plus d'argent que l'autre, il faudra peut-être en tenir compte pour que celui qui investit le plus ait son mot à dire et le pouvoir de direction.
Alors c'est vrai que moi, si je voulais créer une société, je me dirais tout de suite, tiens, je vais aller voir la chambre de commerce de mon département. Mais en fait, il faut aussi aller voir un notaire quand on crée une société, c'est-à-dire que le notaire peut nous conseiller au mieux ?
Les notaires, nous avons une approche un peu particulière. Nous posons deux questions. Comment protéger l'entreprise des risques de la famille en cas de divorce, en cas de décès ? Et comment protéger la famille des risques de l'entreprise ? Si l'entreprise fait des mauvaises affaires, entre guillemets, comment fait-on pour protéger convenablement le reste des biens de la famille et faire en sorte que, par exemple, la maison d'habitation ne soit pas saisie et vendue ?
Ah bah oui. Voilà, donc il est très important d'aller voir un notaire quand on crée une entreprise et bien sûr dans bien d'autres domaines. Merci beaucoup Maître Pierre Lemay d'avoir été notre invité aujourd'hui dans le rendez-vous des notaires. Et vous aussi, si vous voulez être aidé par nos notaires le vendredi, vous nous envoyez un mail à l'adresse notairepourvous@rmc.fr. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Rémi.
On va parler de Netflix qui marche très fort et du cabinet de la porte-parole du gouvernement qui marche moins bien.
Netflix est américain, non ?
Oui.
D'accord, je demande, vous voyez, Rémi.
Mais il y a plein de séries françaises sur Netflix.
Oui, ce n'est pas forcément les meilleures.
Et on a des plateformes françaises de streaming.
Oui, on avait Salto, mais c'est marrant, ça n'a pas duré longtemps.
Oui, mais on a MyCanal, on en a d'autres.
Exactement. Allez, à tout de suite sur RMC, RMC Story, on se retrouve dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec Rémi Barré, avec Benjamin Hamard, avec Juliette Briens et avec Jérôme Lavrieux. Et tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on a beaucoup, beaucoup d'infos aujourd'hui. Rémi, ça doit être la fin de la semaine. En tout cas, on va démarrer avec les affichettes du jour.
Les supermarchés seront prochainement obligés d'apposer des affichettes pour alerter les consommateurs en cas de shrinkflation. Vous savez, c'est cette technique qui consiste à diminuer la quantité d'un produit sans que le prix baisse. Et l'emballage, lui, ne diminue pas. Annonce faite hier soir par Olivia Grégoire, c'est la ministre déléguée au commerce.
Est-ce que c'est bien d'avoir ces affichettes en fait, qui nous préviennent qu'on est en train de nous faire arnaquer, Jérôme Lavrieux ?
Oui, parce qu'il faut inciter à la transparence dans l'évolution des prix. Il faut en avoir pour son argent et pas se faire gruger en achetant un beau paquet en carton avec un tout petit sac en plastique à l'intérieur. Si on a l'impression d'acheter mécaniquement la même chose. Moi, j'essaie d'être très prudent et de regarder toujours les prix au kilo ou les prix au litre. Ce qui évite de se faire avoir et faire des comparatifs, c'est le seul moyen de comparer un produit avec un autre. Moi, je suis en tant que propriétaire de gîte, je suis gros consommateur de bidons de lessive, et je peux vous dire que c'est pas le prix qui est affiché en gros. Ce que je regarde, c'est le petit prix en bas à droite, le prix au litre, et ça m'a permis de faire de sacrées économies.
Juliette Briens, est-ce que c'est pas quand même une nouvelle infantilisation? Parce que normalement, voilà, on est quand même censé, en tant que consommateur, on n'est pas idiot de voir quand on nous arnaque ou pas, quoi.
En fait, justement, oui, à proprement dit, il n'y a pas d'arnaque, puisque évidemment. Sur le paquet, il est bien noté quelle quantité est présente dans le. Et après, on peut faire son calcul soi-même. C'est vrai que s'il y a une réelle volonté, une démarche de tromper le consommateur en discrètement retirant de l'emballage une certaine somme, c'est vrai qu'on va pas. Une fois qu'on connaît le produit, on va c'est pas ça. Aller le regarder à chaque fois, re-regarder le nombre de litres. Donc ça, quand même, ça démontre peut-être quand même d'une certaine malveillance et d'une démarche. Volontaire de tromper le consommateur. Et dans ce cas-là, on peut discuter, oui, effectivement, à mettre des mesures en place. Oui.
Avec le nombre d'affiches qu'on va avoir, on va avoir la shrinkflation, le local score, le Nutri-Score, mais bientôt. Mais en fait, il faudra prendre une journée de RTT pour aller faire ces courses.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le reste, par contre.
Benjamin Hamard, est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous allez, par exemple, boycotter les marques qui font de la shrinkflation?
C'est une honte, on en a parlé ici, c'est de l'escroquerie pure et simple.
Oui, bon, c'est pas fou.
C'est de l'escroquerie, mais pure et simple. Et d'ailleurs, moi, je le prends même pas comme un truc, un peu une anecdote. Je trouve ça honteux, en fait. Je trouve que c'est incroyable. Dans ces temps difficiles pour les Français, de problématiques de pouvoir d'achat, il y a des mecs dans des sociétés d'études qui conçoivent l'idée d'arnaquer les gens par des pratiques en loose day. C'est honteux. Donc, c'est très bien qu'il y ait de l'affichage. Et bien évidemment que, d'ailleurs, il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient été... avait été pointé
par l'association Foodwatch.
Pour ce qui me concerne, il est hors de question d'acheter bien évidemment ces produits-là. Et là, je reviens sur ce que disait Jérôme tout à l'heure. C'est bien par une pratique de boycott d'un certain nombre de consommateurs que les entreprises qui pratiquent ces fraudes, se mordront les doigts. Voilà.
Après, c'est vrai que Olivier Grégoire avait prévenu. Elle avait dit qu'elle n'hésiterait pas à faire du name and shame. Et en fait, c'est effectivement ce qui est en train d'arriver. On va passer, Rémi, à l'empoignade du jour.
Gérald Darmanin, qui est actuellement en déplacement officiel en Guadeloupe, a été vivement empoigné par un individu, mais pas blessé, hier, près de Pointe-à-Pitre. L'auteur des faits est un jeune d'une vingtaine d'années. Il a été interpellé, finalement admis en hôpital psychiatrique.
Mais ce qui paraît fou, Jérôme Lavrieux, c'est que en fait, ce monsieur a demandé à parler à Gérald Darmanin. Il a réussi à s'approcher de lui. Ça paraît quand même dingue, alors que vous êtes en Guadeloupe. En plus, Gérald Darmanin vient de dire qu'il faut un couvre-feu, etc. Le contexte est hyper tendu. Qu'on laisse n'importe qui s'approcher du ministre de l'Intérieur, quand même.
C'est une des personnes françaises les plus protégées qui existe, le ministre de l'Intérieur avec le président de la République.
Faire une pause ou quoi?
Avec le président. C'est toujours un arbitrage, moi, qui ai travaillé de manière très proche avec des élus, dont des élus qui étaient très protégés. C'est toujours un arbitrage entre le service de protection qui veut créer une bulle autour de l'élu pour que personne ne puisse approcher pour prendre zéro risque. Et vous avez toujours la tentation de l'élu, et ce qui, à mon avis, était le cas en l'occurrence, c'est que quand il rencontre quelqu'un, il veut parler, c'est son boulot d'essayer de parler, de séduire, d'échanger avec les gens. Et le type dit « Je voudrais vous parler, monsieur le ministre », et il s'approche. s'approche, il serre la main, parce qu'en France, on serre la main aux gens, ouais. Et il prend la main, il tire, et voilà. Et là, vous savez, Emmanuel Macron, il est encore beaucoup plus protégé. Et que le président de la République, il s'est pris une gifle dans la figure. Donc c'est un arbitrage. On ne peut pas être sous cloche totalement, en permanence. Mais c'est aussi un métier dangereux parce que c'est pas parce que c'est Gérald Darmanin, c'est parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui a voulu se le prendre. Donc c'est les risques du métier. Mais parfois, c'est très compliqué. Moi, j'ai vécu des situations où vous recevez des menaces de mort, vous avez des gens qui vous suivent, qui ont été suivre votre gamin, etc. Et les gens disent c'est pour faire bien d'être en protection. Non, parce que tout ça attire les dingues.
D'accord.
Ça attire tous les dingues. Et la preuve, c'est que le mec, il est en psy. Donc, ça attire les dingues. Voilà.
Benjamin Hamard.
Oui, bien sûr. Moi aussi, ce qui est toujours étonnant, c'est quand on peut quand même l'agripper. Si on peut l'agripper comme ça, ça peut aller très vite, hein, des fois. On peut avoir un drame qui peut se produire extrêmement rapidement. Jérôme rappelait la claque qu'avait pris Emmanuel Macron. Donc, c'est toujours la problématique. Et que dès lors qu'il y a des sorties publiques, avec la volonté, parce que ça passe bien à la télé, de prendre des bains de foule. Oui, mais on est dans une époque où les tensions politiques s'exacerbent et la haine politique s'exacerbe et le climat est délétère. Et donc, là, ça restera une petite séquence rapide sans conséquence, mais très très vite, ça peut prendre une autre ampleur. Et donc, en principe, de ce que j' ai cru comprendre, c'est le travail de cette unité particulière de la police que de pouvoir intervenir. Et dans ces cas-là, s'il y a un drame, c'est eux qui sont responsables. Donc c'est à eux d'apprécier, visiblement, ils n'ont pas bien apprécié là.
Les démissions du jour.
En une journée, c'était vendredi dernier, mais on l'a appris ces dernières heures, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a perdu 3 membres de son cabinet, soit un tiers des effectifs.
Oui.
Son directeur de cabinet, sa conseillère spéciale et sa chef de cabinet lui ont remis leur démission. D'après un député Renaissance cité dans le magazine Le Point, personne ne veut plus être lié de près ou de loin aux conneries de Prisca, je cite, et à ses multiples bourdes.
Oui, alors on rappelle que par exemple, elle avait dit qu'on avait déjà un attentat alors que c'était le week-end d'avant, alors que c'était faux et que c'était trois semaines avant. Et c'est vrai que voilà, elle multiplie les bourdes. Enfin, c'est quand même hallucinant d'en arriver là, quand même, Juliette Briens.
Bah, de nous dire que c'est comme en amour, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Non, c'est pas comme en amour. Quand on se comporte professionnellement et qu'on traite bien ses collaborateurs, normalement, on n'a pas de démission en cascade. Manifestement, c'est un peu un tyran, Madame Thévenot. Mais c'est marrant parce que c'est souvent dans la Macronie et le gouvernement d'Emmanuel Macron, sur les députés d'Emmanuel Macron, qu'on a ces quatre figures. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête.
Les démissions.
Bien sûr, oui, sur les démissions en cascade des collaborateurs et des collaborateurs, des assistants parlementaires maltraités, harcelés. Pardon.
Mais parce qu'en fait, c'est le pouvoir et donc je pense qu'il y a encore plus de pression.
Ah non, parce qu'un député, c'est un député. Quand on est député, on a un assistant parlementaire et ça s'est beaucoup retrouvé quand même chez les députés du centre. Ces démissions en cascade de collaborateurs harcelés. Mais bon, après, évidemment.
Il y en a chez les députés LFI, qui ont plusieurs dizaines. Il y a même une sénatrice verte.
Parce qu'elle avait harcelé
ses collaborateurs. Donc c'est pas une histoire d'étiquette politique, c'est une histoire de caractère ou parfois d'absence de caractère.
Oui. Enfin, ça la fout mal quand t'as la parole du gouvernement. Il y a un tiers de son cabinet qui démissionne.
Il y a différentes choses. Est-ce qu'il y a la maltraitance, le harcèlement, la façon dont on est traité? Et puis il y a aussi des gens
qui ne veut pas être assez bourde.
Excédé par les bourdes constantes et l'incapacité de Mme Thévenot à répéter de simples éléments de langage, etc.
Le principe d'un porte-parole, c'est de répéter les éléments de langage.
Ça pose un problème de fond, qui est dit là. C'est qu'en fait, alors, de fait, dans ma mémoire, il faudrait vérifier, mais il y a eu effectivement des histoires de démission en série chez un certain nombre de responsables macronistes. Je sais pas si ça concernait pas, j'ai un doute, mais Sibeth Ndiaye.
Voilà, c'est pas Sibeth, mais excuse-moi.
Il y a eu, peut-être pas Madame Ndiaye, mais d'autres ont été concernés par ça, mais ça correspond, je pense, plus au fait qu'il n'y a pas de bande-touche chez Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les responsables politiques expérimentés ou avec un peu d'expérience, il n'y en a pas beaucoup.
C'était Siracilla.
Pardon ?
Siracilla.
Voilà. Et donc, il y a des gens qui montent et qui, visiblement, n'ont pas les épaules pour le costume. Et donc ça provoque cela, parce que on a quand même pointé, au-delà d'avoir des problèmes avec ses assistants, il y a quand même eu un problème de compétence sur un certain nombre de situations où elle a raconté, disons, les choses à peu près n'importe quoi. Donc derrière, plutôt que d'assumer ça, c'est beaucoup plus facile d'aller se défouler sur ses assistants et ses subalternes. Et ça, moi, je le lis quand même à la faiblesse du personnel macroniste.
On va passer tout de suite au carton du jour, celui de Netflix, Rémi.
Oui, le carton du jour, Netflix annonce avoir gagné 9 300 000 abonnés supplémentaires au cours du premier trimestre 2024 à travers le monde. Cela porte son total à près de 270 millions d'abonnés, alors que le marché s'attendait à un ralentissement de la croissance du géant du streaming.
En même temps, comme ils ont empêché de servir des codes des uns et des autres, c'était une
Dans ma famille, ça a été un tremblement de terre.
Non, mais on est d'accord, mais justement, les spécialistes du secteur disait qu'il allait avoir une fuite.
Parce que moi, c'est ça. Nous, moi, je l'ai vécu. On avait une famille, on est 5, on partageait les codes, le Netflix. Ils ont bien fait, je suis désolée.
C'était un risque, mais encore une fois, les spécialistes du secteur disent ils ont réussi leur coup.
Ah bah oui, parce que nous, on a tous repris un abonnement, c'est sûr. Quand t'as ta série et que tu veux la suite, tu flippes.
Mais ça veut dire quelque chose aussi sur notre société, voilà, le fait que Netflix cartonne, c'est-à-dire qu'on sort plus de chez nous, finalement, Jérôme Léry.
Moi, je le constate dans mes gîtes. J'ai mis un meuble entier avec plein de jeux de société pour leur dire, au cas où vous ne voudriez pas être chacun sur votre tablette dans un coin de la banquette, je vous propose des jeux de société. C'est très ringard.
C'est génial.
Je peux vous dire que ça cartonne. Ça cartonne. Ils sont venus tous avec leurs tablettes. Les gamins, ils ne peuvent pas vivre sans avoir regardé la dernière série. Ils la regarderont chez eux après. Et pendant qu'ils sont chez moi, ils jouent. Alors, les gamins aux 1000 bornes, ils se mettent à jouer au Uno, au Monopoly, au Trivial Poursuite, je sais quel jeu. Et ils adorent ça. Et ils jouent ensemble. Plutôt que de regarder, parce que Netflix, on ne regarde pas souvent sur sa télé, on le regarde souvent sur sa tablette, et pas la même chose que son compagnon ou sa compagne.
Vous aussi, vous trouvez ça un peu dramatique, finalement, ce carton de Netflix, Benjamin Hamard, ou c'est tout simplement l'évolution de la société ?
Bon, alors, je pense que c'est un peu l'évolution de la société. Moi, pour le coup, j'ai une plateforme Netflix, ça ne m'empêche pas d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de regarder ça. Oui. Et alors, parfois, c'est ça qui est. Moi, j'ai déjà, dans des réunions de famille, etc., j'ai pu voir ce que dit Jérôme là, c'est-à-dire qu'en plus, c'est même pas tu te regardes devant un écran, tout le monde le même film, c'est que tu as 5 personnes qui regardent leur série, chacun de leur côté. Voilà, et même à la maison, moi j'ai ma belle-fille très souvent, d'ailleurs je la salue, elle est agréable comme tout, mais alors souvent, le moment où on mange à table, elle est avec ses écouteurs et sa série. Et on lui dit, attends, t'es sympa, là, on peut avoir un moment convivial, etc. Non, mais attends, c'est mon dernier épisode. Donc si vous voulez, ça parcellise et ça compartimente chacun de son côté. Effectivement, c'est pas dosé avec mesure, c'est bien le problème.
Allez, on va terminer avec notre coup de cœur, le camion du jour, Rémi.
Pour réduire la fracture territoriale, la Poste annonce le lancement d'une expérimentation de camions bureaux de Poste itinérants dans l'Orne, la Haute-Marne, la Creuse, le Gers et le Jura. Des camions jaunes, évidemment, qui s'installeront pendant une demi-journée sur des places du village, une fois par semaine, donc, et proposeront des prestations postales. Classique, il y aura même un camion qui sera équipé d'un DAB, d'un distributeur de billets, mais aussi des opérations de France Service. Vous pourrez accéder à Internet pour régler vos problèmes avec les impôts, les allocations ou encore l'emploi.
Ça, c'est génial, Jérôme Labrieux, et on se dit pourquoi expérimenter, pourquoi pas y aller tout de suite, parce que
ils vont commencer par un petit morceau, donc ça va se mettre en place. Je pense que ça va se développer fortement. Et c'est l'alliance de la Poste et de France Service, c'est-à-dire la Poste et l'agent France Service qui dépend du gouvernement. C'est génial, notamment pour ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est quand on part du nord-est et qu'on va jusque dans le sud-ouest, et où il y a plein de régions où il n'y a plus de service public. Il n'y a plus de service public parce qu'il n'y a plus de gens assez de gens pour les fréquenter. Ça ne sert à rien d'avoir un bureau de poste dans chaque village qui soit ouvert toute la journée, toute la semaine, si personne n'y va. Mais savoir qu'à tel moment, dans son village, on pourra avoir ce service sans faire 30 ou 40 kilomètres, on peut le programmer. Je trouve ça génial. Ce qui prouve que parfois, il peut y avoir de bonnes mesures et de bonnes dispositions qui soient prises.
Exactement. Et ça va nous faire beaucoup d'économies. Parce que si dans le même temps, quelques bureaux de poste ferment et qu'il y a un camion, évidemment, ça coûtera beaucoup moins cher.